Cinérama.
Cinérama. Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission de cinéma hebdomadaire. Nous sommes le mercredi 2 février et nous avons... sommes le mercredi... Enfin, 1er février, voilà, ça commence bien.
C'est pas très grave, voilà. Détail.
Et nous sommes, pour la première fois de cette année 2012, trois dans le studio, trois, disons, dans l'équipe, puisque eh bien, nous avons accueilli, adopté Manu.
Bonjour.
Bonjour Manu.
Bonjour Manu.
Et Manu qu'on avait reçu donc en tant que programmateur de l'absurde séance, et puis on s'est dit que finalement, eh bien, il pourrait peut-être nous parler de ces films bizarres, qu'on a tendance à méconnaître, nous, Marine. Hein.
Oui, nous, c'est vrai que c'est pas trop notre catégorie.
C'est plutôt RSR, réflexion. Et voilà, donc, bien, tu nous feras une chronique sur un film.
Murder à la mode. Alors, c'est un film, justement, un film de genre, mais à la limite du film d'auteur. C'est le premier film de Brian De Palma.
Donc, eh bien, on retrouvera ça en plein milieu de l'émission. Et puis, sinon, Marine, toi, tu vas nous parler de quoi ?
Moi, je vais vous parler de Café de Flore de Jean-Marc Vallée et Une bouteille à la mer de Thierry Benisti.
Et puis moi j'ai une extinction de voix quasiment, mais eh bien, je vous parlerai des Chants de Mandrin, le dernier film de Rabah Habersalmush, puisque je devais eh bien, diffuser l'interview la semaine dernière, ça n'a pas été possible, donc cette fois-ci eh bien, on l'entendra, le Rabah Habersalmush. Je vous parlerai du dernier Sherlock Holmes quand même que j'ai vu, et puis on écoutera aussi Jacques Choucroune qui nous parlera des rencontres du cinéma algérien qui ont débuté cette semaine. C'est Cinérama.
Cinérama, Cinérama sur Divergence FM.
Et on commence tout de suite avec donc Café de Flore. C'est en écoutant ce morceau que Jean-Marc Vallée a eu l'idée de son nouveau film Café de Flore. Ne cherchez aucun rapport avec le QG de Jean-Paul Sartre, le titre du film provient uniquement de cette musique. Un son sur lequel Antoine, DJ à Montréal, rencontre une jeune femme dont il va tomber éperdument amoureux. Seul problème, il est marié depuis 20 ans avec son amour d'adolescence dont il a eu deux enfants et sa femme n'est pas prête à le laisser partir. En parallèle, nous suivons le combat de Jacqueline, interprétée par Vanessa Paradis, qui élève seul son fils trisomique dans les années 60. Alors après Crazy, qui avait marqué les esprits de la meilleure manière, Jean-Marc Vallée signe ici un film dans lequel la musique est à nouveau un élément primordial, à la fois personnage principal, vecteur d'émotion et tempo artistique de la réalisation. Le film, qui découle d'un tel parti pris, est forcément clipesque sans être aussi rock'n'roll qu'il l'aurait souhaité. Dommage que le réalisateur ait mis son talent au service d'un sujet aussi casse-gueule, car il parvient a de belles réflexions sur l'universalité et l'intemporalité de l'amour, mais l'on aurait aimé contempler plus original que des scènes au ralenti sur de la musique bien sentie, même si l'on a rarement trouvé meilleur moyen de signifier l'amour au cinéma. Mais encore fallait-il que le film s'embarrasse lourdement d'un psy et d'un médium pour justifier de telles introspections.
Je sais pas. Un feeling. Un dégage tellement de peine. Autant j'ai envie de la prendre dans mes bras, autant j'ose pas m'approcher. Je comprends tellement ce qu'elle doit ressentir. Ça me tuerait que tu disparaisses de ma vie, que je puisse plus t'aimer, qu'on puisse plus être ensemble. Puis moi, j'ai pas eu d'enfant de toi, imagine-le. J'ai peur que tu retombes aussi, que tu retrouves tes sentiments pour elle. Je pense qu'elle attend rien que ça. Après avoir été 20 ans avec un homme, après avoir eu avec lui les deux plus belles filles au monde, moi j'attendrai rien que ça.
Ne vous inquiétez pas pour l'accent canadien, il y a des sous-titres dans le film, bien sûr. Alors, malgré de très bons acteurs, lumineux et complexes, Vanessa Paradis en tête, qui avec le temps gagne en talent ce qu'elle perd en beauté, le film commence dans la confusion et finit dans l'absurdité la plus totale. Les trois premiers quarts du film font fumer nos cerveaux qui tentent de démêler ces incessants allers-retours entre le passé, le présent, le futur et les vies antérieures, rien que ça, pour s'achever comme un épisode de Fais-moi peur avec vision, suspense morbide et autres fantômes, dans une dernière partie malsaine, incompréhensible et inutile. La volonté du film, qui fait jouer son propre rôle à une star de la musique québécoise encore inconnue chez nous, était de concevoir son scénario comme un set de DJ en mixant plusieurs destinées et en alternant montée en puissance et lunch tempo, afin de retranscrire au mieux le lyrisme et les douleurs de l'amour. Mais malgré la modernité du propos et l'audace poétique de la construction scénaristique, le résultat est bien trop incertain pour nous faire croire à cette interprétation métaphysique de la rupture amoureuse. Où ça passe encore, au Diago, je ne le conseille pas forcément.
Voilà qui est dit.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
C'est la première interview de ce cinérama, celle de Rabah Hammerzeimisch, qui a sorti son dernier film, Les Chants de Mandrin, c'était la semaine dernière. Alors l'histoire des Chants de Mandrin est assez simple, hein. Après l'exécution de Louis Mandrin, célèbre hors-la-loi et héros populaire au milieu du XVIIIe siècle, ses compagnons risquent l'aventure d'une nouvelle campagne de contrebande dans les provinces de France. Sous la protection de leurs armes, les contrebandiers organisent aux abords des village des marchés sauvages où ils vendent tabac, étoffes et produits précieux. Et puis, ils écrivent des chants en l'honneur de Mandrin, les impriment et les distribuent aux paysans du royaume. Alors, dans les chants de Mandrin, on peut voir un film contemplatif avec sa lenteur, sa durée et sa poésie. Un film sur la fraternité, car la fronde contre l'ordre établi, il s'agit bien de suivre les compagnons d'un criminel de lèse-majesté, assassin, voleur et perturbateur du repos public, qui a fait le lien entre les générations et abolit les différences sociales. Un contrebandier comme un marquis sont capables de suivre les pas de Mandrin en cette période pré-révolutionnaire. Alors Rabah Hammerzeimisch, qui a ancré sa filmographie dans le monde contemporain avec tout d'abord Wesh Wesh à Montfermeil, Bled Number One en Algérie et puis Dernier Maquis dans une usine, est parti cette fois-ci trouver son sujet à l'aube de la Révolution pour retrouver un élan contestataire. Contrebandier, imprimeur hors-la-loi et marquis libertaire, il se forme dans les Chants de Mandrin un trait d'union entre les classes sociales pour que subsiste la parole d'un homme qui préfigure le liberté, égalité, fraternité de nos mairies. Alors Rabah Hammerzeimisch était assez intrigué par les textos qu'il recevait pendant cette interview. Mais finalement, comme je l'avais déjà pratiqué en interview, il est capable aussi de partir dans des envolées poétiques comme ça et de ne pas se sentir forcément concerné par les questions, mais il a quand même répondu à quelques-unes de nos questions. On l'écoute.
Rabah Hammerzeimisch, j'ai la chance de pouvoir faire des films. Merci.
Après avoir affronté les dangers de l'Orient et les gapions du roi, les Mandrins sont de retour pour un nouveau marché libre.
Les sources d'inspiration, elles sont nombreuses. Déjà le personnage en lui-même. Mandrin a été un chef de contrebandier du XVIIIe siècle qui a organisé et préparé de façon espiègle et merveilleuse des campagnes de contrebande dans le royaume de France de façon hallucinante, avec un courage, un toupet, une audace, comme on a vu rarement.
Cet homme nous appartient.
Cet homme est surtout mourant.
C'est un déserteur.
Dans ce cas-là, il est bienvenu dans ma troupe.
T'en fais pas, petit. Et si dans tes rêves, tu vois le diable et des nôtres.
L'histoire des Chants de Mandrin débute juste après sa mort. Et on est avec ses compagnons qui décident de prendre le risque d'entamer une nouvelle campagne sans sa présence, mais avec son esprit, avec son souffle et en son honneur. Notre volonté était surtout de filmer ce qui se passe devant la caméra, c'est-à-dire le présent, et à travers l'histoire du contrebandier qui essaye d'organiser une vie en contre-société, à la marge, à la lisière, des répressions et des oppressions royales, ça nous a donné une certaine une certaine ouverture, une certaine perspective, pour ne pas dire une voie royale.
Alors, votre précédent film, Dernier Maquis, lui, se passait dans une époque contemporaine, dans une usine, c'était ouvertement politique. Là, cette fois-ci, c'est un film en costume. Quand c'est un film en costume et qu'on va dans le passé, c'est peut-être une autre esthétique.
Dernier Maquis se terminait par une palette rouge transpercée de lumière et parfois même d'obscurité, comme des trous noirs qui attirent justement cette lumière. Et nous, on se demandait qu'est-ce qu'il pouvait avoir derrière. Ben, le premier maquis, celui où les idées des lumières sont du XVIIIe siècle nous sont parvenues et ont réussi à semer les idées de la Révolution et de la République. Donc pour nous, les Chants de Mandrin, c'est le premier maquis. C'est le maquis ultime et nécessaire.
Alors vous jouez aussi le rôle principal, vous jouez dans tous vos films. Et là, la différence, c'est que j'ai l'impression que là, pour une fois, il n'est pas question d'immigration. Alors que tous vos autres films, on voyait ça soit en sujet frontal, soit en toile de fond. Est-ce que ça aussi, ça vous a fait du bien, justement, de revenir au premier maquis? Parce que, en plus, j'ai entendu qu'effectivement, vous aviez appris la complainte de Mandrin quand vous étiez jeune, et que ça vous avait donné envie, finalement, peut-être d'être français. Vous vous étiez dit, mais oui, c'est peut-être que ça vaut le coup d'être français.
Ben, lorsqu'on a grandi dans la cité des Bosquets, une cité où toutes les minorités visibles et invisibles sont confrontées à la répression et à l'exclusion, il est certain que devenir français, c'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Pour cela, faut le vouloir. Et la figure de Mandrin, pour ce qui me concerne, y a largement contribué. Mais tu parlais d'immigration, certes, c'est pas des populations qui migrent, mais elles sont placées dans un espace qui est en même temps temporel, c'est-à-dire qui est présent, qui est dans une nature sauvage et indomptée. Si les contrebandiers des Champs de Mandrin ne sont pas des immigrés, en tout cas, ils en ont bien la gueule. Et les marchandises qui transportent de village en village pendant leur campagne, qui peuvent durer pendant des centaines de kilomètres, c'est quand même des marchandises qui viennent d'Amsterdam, qui viennent de Londres, ou bien qui viennent de l'Extrême-Orient. Ce sont des étoffes, de la poudre, des armes, et surtout des livres. Des livres remplis d'idées. D'idées lumineuses qui vont changer le siècle.
En référence à ces gueules, c'est vrai qu'on on a l'impression d'ailleurs que ce sont des... Enfin, que ça appartient au brassage de la France, mais on n'est pas très certain de ne pas être en face d'un anachronisme, en se demandant, mais est-ce qu'à cette époque, même vous, votre personnage, est-ce qu'il y avait déjà des Arabes qui étaient dans la contrebande et ainsi de suite.
Je ne suis pas sûr qu'il y avait des Arabes au XVIIIe siècle dans la contrebande, mais par contre, il y en avait sur l'île de la Cité il y a 20 000 ans. On a découvert des haches polies qui avaient la même qualité que celle qu'on avait découvert en Afrique du Nord. L'humanité est une espèce animale dont sa spécificité est d'être en mouvement perpétuel. Et nos contrebandiers sont toujours en mouvement.
Par ailleurs, sur l'exactitude, je reviens sur les anachronismes, est-ce que ce qui vous intéressait dans Mandrin, c'était pas plus le texte et effectivement ce que comportait le texte plutôt que l'exactitude historique? Est-ce qu'on est en face d'un film finalement historique ou pas du tout?
Et oui, c'est un film historique à partir du moment où il parle du présent. C'est presque mission impossible que de filmer le passé. On ne peut filmer que ce qui se passe devant soi. Ce qui passe, c'est le présent. Et c'est ce qu'a été le passé à un moment donné.
Mais là, c'est au sens de reconstitution. Est-ce que vous reconstituez le passé? Le présent du passé.
Oui, on le reconstitue, mais c'est juste pour parler d'aujourd'hui, pour dire que les idées ces idées lumineuses du XVIIIe siècle, ces idées révolutionnaires, aujourd'hui, elles sont absolument nécessaires pour pouvoir résister aux oppressions financières.
Tu cherches après le testament de Mandrin?
Ben, si tu pouvais le trouver ici, je fais une biographie sur le Mandrin.
Jean-Luc Sinan, imprimeur.
Monsieur Sinan, monsieur Bélissard. Les chants de Mandrin, poème en quatre chants.
J'ai envie de faire une spéciale dédicace à la joie et à la beauté de nos rêves. Merci.
Chants en quatre volumes, vers burlesque.
Lâche ça, qu'est-ce que tu vends?
Tu vas être roué vif, comme Mandrin, comme tous les autres.
Ah,
Pour Romain. Pour Romain. Pour la joie.
Pour la joie.
Et pour la beauté de nos rêves.
Voilà, vous avez eu un petit aperçu hein, de ce qu'était capable de faire Rabah Ammerzheimer lors d'une interview. Quelques envolées poétiques. Alors, Les Champs de Mandrins n'est pas un film forcément facile. Voilà, c'est plutôt poétique. Comme je l'ai dit, il y a de la durée. C'est un film qui se vit, mais néanmoins, il a remporté le prix Jean Vigo, donc qui récompense les meilleurs films français. Meilleur film français classé à RSC chaque année. Donc, il est projeté au Diagonale Capitole.
Cinérama sur Divergence FM.
C'est la grosse forme aujourd'hui. Donc, Manu, aujourd'hui, première intervention dans Cinérama avec un grand film, enfin, en tout cas, un premier film d'un grand réalisateur. Film, oui.
Donc, Murder à la mode. Je pensais ouvrir d'abord cette chronique consacrée au cinéma de genre avec un film sorti en salle, mais ou un inédit DVD récent. Mais bon, j'ai pas trouvé. Donc, je vais du coup faire un peu de pub pour un petit éditeur installé là sur Montpellier depuis peu, Le Chat qui fume. Si j'en parle, ce n'est pas par copinage, hein, mais c'est parce que cet éditeur indépendant a eu l'heureuse initiative de sortir un film très rare de Brian De Palma, Murder à la mode, bizarrement rebaptisé pour l'occasion Meurtre à la mode.
Dawn, love's turned into a mean weapon. To hurt so long, oh say can you see that it's wrong and that you're through. Murder a la mode, the mode is not so strange and not so odd. It's everywhere, why can't you see? It's everywhere, why can't you see?
Karen, donc, une jolie fille, candide, est amoureuse d'un photographe de charme qui lui a promis de l'épouser une fois qu'il aurait divorcé avec sa femme. Mais confronté à des difficultés financières, il accepte de tourner Une Commande, un film pour adultes produit par l'énigmatique Otto, personnage fantasque et dérangeant qui collectionne les décès violents dans son entourage. Après une série de courts-métrages remarqués, Brian De Palma signe son premier long-métrage avec Murder à la mode, une œuvre hybride et assez passionnante à la lisière de l'essai expérimental. Le futur géniteur des indispensables Phantom of the Paradise et Scarface embarque le spectateur dans un maelstrom d'images foisonnantes, des audaces graphiques, des références pointues, des pirouettes scénaristiques avec une absence de complexe qui force souvent l'admiration. En fait, toutes les obsessions et les thèmes majeurs de De Palma sont éjectés à l'écran à l'état brut, à savoir entre autres le goût de la manipulation, le voyeurisme, la trahison, et ici on laisse poindre aussi une critique de la société de consommation et de satire politique. En 68, De Palma n'est pas encore tout à fait un cinéaste accompli, il n'a pas trouvé sa voie, il hésite un peu entre la nouvelle vague, le cinéma d'auteur européen, voire même le burlesque issu du cinéma muet et le thriller hitchcockien. Après un générique, donc là chanté par l'excellent William Finlay, qu'on vient d'entendre, Murder à la mode débute par une série de séances photos de charme prises en contre-plongée. Dès ses premières images, De Palma se lâche, il se moque du bon goût, et en cinéaste débutant, il n'a cure de montrer un peu ce qu'il faut ou pas. C'est assez épuisant et parfois indigeste, mais ce pastiche de thriller n'en demeure pas moins passionnant, ne serait-ce que pour sa réflexion pertinente sur la nature même d'une mise en scène. Mais à la différence de certains de ses confrères, se noyant à l'époque dans un cinéma new-yorkais un peu intello, on sent chez De Palma un plaisir de filmer une histoire qui est scindée en deux parties. La première partie rappelle Le Voyeur de Michael Powell. Elle se concentre sur la relation entre l'apprenti cinéaste manipulateur et sa petite amie. Il prétexte un besoin d'argent pour la déshabiller, mais on sent déjà chez ce personnage un rapport pathologique et obsessionnel à l'image, un goût pour le voyeurisme, il aime filmer sa copine, mais il ne l'a encore jamais touché. D'ailleurs, ce personnage évoque toute une flopée de personnages que l'on verra ultérieurement chez De Palma, que ce soit dans Body Double, Blow Hot ou récemment dans Femme Fatale. La deuxième partie, beaucoup plus curieuse, elle s'inspire de la construction du Rashomon de Kurosawa. La même histoire, elle nous est racontée en fait, du point de vue des trois personnages. Donc Otto, l'espèce de pitre un peu farfelu du film, le jeune cinéaste en herbe, et l'ami de Karen. L'une des réflexions centrales du cinéma de Palma est formulée ici à l'état de brouillon. L'absence d'information, donc le manque d'image, conduit à une mauvaise interprétation de la réalité. Chaque personnage est trompé par les apparences. Seul le spectateur possède les éléments en main, soit les trois points de vue qui permettent de reconstituer le puzzle. Cette longue séquence, en fait, virtuose et assez ludique, est une pure leçon, de mise en scène. Tout le dispositif mis en place, notamment avec la valise dans le cimetière, permet au jeune cinéaste d'expérimenter des angles de prise de vue insolites, un découpage filmique moderne et de savants travelling latéraux. Voilà, pour conclure, on pourra dire que Murder à la mode est certes un film imparfait, pas toujours digeste, l'interprétation est inégale, voire franchement catastrophique avec l'intervention d'un producteur à un moment donné. La plupart des gags tombent plutôt à plat, mais le film reste une proposition de cinéma stimulante qui contient à l'état de gestation tout ce qui plus tard éclatera dans les films majeurs de l'auteur de Carrie. À signaler, enfin, une scène de meurtre au rasoir qui est violente et esthétique et qui préfigure celle, à mon avis inégalée aujourd'hui, de l'ascenseur dans Pulsion. Donc, ce film est disponible donc, chez Le Chat qui fume, à un prix modique. On peut le dire ou on peut pas, je ne sais pas.
On peut bien sûr qu'on peut le dire. Hein, ouais.
Puisqu'il est disponible pour 9,99€.
Oui, effectivement, oui, c'est rien.
Aussi, on peut l'acheter chez l'éditeur, mais aussi chez Amazon et dans pas mal de distributeurs, en fait.
D'accord, bah, j'imagine que si l'éditeur est montpelliérain, on peut le trouver éventuellement à Montpellier facilement.
Il a un site, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Il existe le site du Chat qui fume, mais on peut commander en ligne.
Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des bonus puisqu'il est question d'un DVD là, est-ce qu'on peut parler du contenu peut-être ?
Pour le coup, il n'y a pas de bonus. Je pense qu'il y avait une grande difficulté. Déjà, le film est très très rare. Il est, c'est vraiment son premier film. Il est sorti dans une collection aux États-Unis, mais introuvable. Je crois que c'est Something Weird, un truc comme ça. Mm. Et c'est un film assez rare.
Et pour le coup, est-ce que Brian De Palma accepte ce film comme son premier film ? Est-ce qu'il en parle encore ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il renie
dans
ou pas ?
Il en parle assez longuement, comme tous les autres films, dans un livre qui lui est consacré, l'interview qui a été réalisée un peu à la manière d'Hitchcock-Truffaut. Mmh. Et c'est deux journalistes de Positif, en fait, qui font toute une analyse chronologique du cinéma de De Palma. Et il en parle, il renie pas ce film, qui correspond aussi aux ambitions de De Palma à l'époque. Il savait pas trop s'il allait s'engouffrer vers du cinéma de genre façon Carrie ou Sœur de sang, ou s'il allait vers un cinéma plus d'auteur côté Cassavetes ou Godard, qui était à l'époque son réalisateur fétiche quand même.
Hein. Ouais. Eh bien, merci en tout cas, Manu, pour cette première chronique. Donc, tu reviens la semaine prochaine avec peut-être un peu plus de... Enfin, un film un peu plus bis. Ou...
Ce sera le dernier film de John Carpenter.
Ah ben non, oui, c'est vrai, on en a parlé.
The Ward, un film qui malheureusement devait sortir en salle en novembre et qui, pour des raisons... alors, est-ce que c'est lié à la qualité du film ou le fait qu'il est considéré comme un peu un has-been aujourd'hui, mais il n'a pas pu trouver... d'exploitation en salle. En fait.
Bon, au moins il aura encore fait la musique au synthé ou pas ?
Je crois pas. Je crois pas.
Quelle déception.
Cinérama. Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on passe maintenant à tout autre chose, une bouteille à la mer de Thierry Binisty. Pardon. Alors Tal, lycéenne à Jérusalem, donne à son frère une bouteille contenant un message avec pour mission de jeter celle-ci dans la mer de Gaza. La bouteille en question est récupérée par de jeunes Palestiniens, moyennement émus par la lettre qu'elle contient d'une jeune fille juive qui essaye par ce biais de créer un contact au-delà des guerres et des religions. L'un d'entre eux, néanmoins, ne va pas résister à l'envie de lui écrire un mail qui va alors entraîner une correspondance entre les deux adolescents. Passant d'une méfiance brute à la curiosité puis à l'amitié presque amoureuse, le Palestinien et l'Israélienne vont apprendre à se connaître et se raconter leur vie si différente et pourtant si étroitement liée. Le réalisateur Thierry Binisty se retrouve ici avec la double charge de revenir au cinéma, lui qui officie davantage à la télévision, en adaptant un roman épistolaire. Le film, fluide, rythmé, parsemé d'acteurs crédibles dont Yam Abbas remplit son office d'énième tentative d'approche du conflit israélo-palestinien. Rien de très marquant, cependant, dans cette réalisation banale, empreinte d'une grande sobriété qui repousse l'émotion un peu trop loin. Un film efficace qui ne marque pas pour autant les esprits et se contente d'aborder un thème actuel par le biais d'un scénario classique, la liaison contrariée de deux êtres séparés par la guerre. Alors j'ai rencontré justement à l'occasion de la sortie du film le réalisateur, donc Thierry Binisti, et Valérie Zenati, auteur du roman initial et co-scénariste.
Je m'appelle Tal Levin, j'aurai bientôt 17 ans et j'habite Jérusalem. Hier soir, il y a eu un attentat dans un café près de chez moi. Je ne comprends pas que la vie tienne à ça, avoir envie ou pas d'aller au café d'en bas.
Par rapport à la toute première scène du film, le fait que ce soit entièrement en bruitage, que l'écran soit noir et justement que ça retranscrive l'attentat uniquement en bruit, pourquoi ce parti pris ?
Parce qu'on est à ce moment-là dans la tête, enfin on est avec Tal qui n'y assiste pas, elle l'entend tout simplement. Donc c'est pour traduire au mieux la perception qu'elle a de cet attentat. Elle ne passe pas à côté du café, elle n'est pas dans le café, elle est dans sa chambre et elle entend la déflagration. Donc le spectateur vit ce moment tragique exactement de cette même façon. Et après, le film s'ouvre avec cet événement fondateur, en fait, effectivement, puisqu'après elle décide d'écrire cette lettre, d'envoyer cette bouteille après cet attentat. Et c'est une façon de faire vivre, en fait, au spectateur quelque chose, cette violence aveugle, en fait, qui va frapper. On ne sait où, on ne s'y attend pas. Donc voilà, c'est une façon de traduire un petit peu cette sensation terrible.
À chaque attentat, on entend ras-le-bol des Palestiniens. Mais les Palestiniens, c'est qui ? Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi à cette adresse. Dis-moi où tu l'as trouvée, qui tu es. Parle-moi de toi, s'il te plaît.
C'est vrai que quand j'ai découvert le livre de Valérie Zenati, Une bouteille dans la mer de Gaza, j'ai tout de suite été séduit par cette possibilité, en fait, de faire vivre aux spectateurs une double situation. En même temps, on pouvait être dans la tête d'une jeune Israélienne et en même temps dans la tête d'un jeune Palestinien. Et c'est deux modes de pensée extrêmement contradictoires, a priori. Et le fait de les mettre en présence, de pouvoir passer de l'un à l'autre, ça permettait de vivre ces deux réalités, d'accompagner ces deux pensées et du coup de trouver, peut-être grâce à ce dialogue qui se met en place, des ponts. En lisant ce livre, du coup, j'ai eu envie d'en faire un film, puisque j'ai vu à peu près toutes les images qui pouvaient naître d'une telle situation. Voilà, l'envie du film est née quasiment simultanément à la lecture, en fait. Je n'attendais pas la fin du livre pour me dire, tiens, j'ai envie de l'adapter. En le lisant, je me le disais déjà.
Plus qu'un message, moi, je crois que j'ai voulu lui faire vivre une expérience qui est celle du dédoublement, celle du double regard, parce que dans ce conflit, comme dans beaucoup de conflits brûlants, il y a souvent la tentation de se situer d'un côté et contre l'autre. Et moi, ma position est celle d'une double empathie. J'avoue que je comprends ce que vivent les Israéliens au quotidien et je comprends ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Et c'est ça qui m'intéresse, cette dimension humaine de confrontation à une réalité qui est parfois banale et puis parfois terrifiante ou très violente. Et j'ai envie, moi, j'ai envie de partager ça.
Avec Eutal, tu comprends ça? En guerre.
Raconte du danger,
donc,
hein.
Tu communiques avec. Tu sais même pas avec qui.
Aucun mal de toi depuis une semaine. Je m'inquiète. Dis-moi juste si tu vas bien.
Trop dur à Gaza en ce moment. Je ne peux pas te raconter. Mais si tu veux savoir des choses sur moi, je m'appelle Naïm El Farjouri. Et maintenant, j'ai un ami à Jérusalem.
C'est un livre pour la jeunesse quand même à l'origine et vous en avez fait un film que moi j'ai trouvé très adulte par rapport à la question de l'adaptation. Comment est-ce que ça se passe en fait? Comment faire pour vous ne pas avoir l'impression que votre œuvre est dénaturée? Et comment faire pour vous avoir l'impression de faire votre film?
En fait, le livre était effectivement un livre pour adolescents parce qu'il me semblait que quelque chose de la naïveté, de la générosité de Tal et de son désir de changer le monde correspondait bien à ce que j'avais envie de mettre dans un livre pour adolescents. Et ensuite, lorsqu'on est passé à l'adaptation avec Thierry, on s'est dit qu'on avait envie d'aller plus loin et de creuser peut-être certaines choses qui n'étaient pas dans le livre ou qui étaient seulement effleurées, comme par exemple le déchirement intérieur de Tal entre son frère, qui est soldat, et Naïm, qui est à Gaza. Le sentiment de trahir tantôt l'un, tantôt l'autre, des choses qui sont très difficiles à vivre et qui étaient moins dans le livre. Il y a eu une sorte, dans l'adaptation, une sorte de... On est allé vers la maturité du sujet sans dénaturer le livre, parce que je crois qu'on est resté fidèle à son émotion. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de trahison. On a travaillé ensemble et tout ce qui est dans le film, je le revendique autant que Thierry ou je l'assume autant que lui. Mais je pense vraiment que le travail a été, oui, d'aller vers plus de maturité. Et puis il y a des choses qui passent très bien par les mots et à l'image, peuvent être vraiment ridicules. Donc notre parti pris a été de raconter la même histoire, de se mettre dans la même situation que le livre et en même temps de s'en détacher dans son côté parfois, oui, peut-être un peu naïf justement. Ce qui en fait à l'arrivée un film pour tous. Enfin, effectivement, c'est pas un film pour ados, c'est un film que les adultes ont du plaisir à voir et à notre grande joie que les ados, lorsqu'on les y emmène, ont du plaisir à voir aussi.
Oui, et puis pour moi, en fait, il n'y a pas d'histoire spécialement destinée aux adolescents, d'autres destinées spécialement aux adultes. Voilà, à partir du moment où une histoire porte quelque chose de fort, je pense qu'elle est destinée à tous les publics, et c'est le cas. Du coup, on ne s'est pas vraiment posé cette question-là. Et moi, quand j'ai lu le livre, je n'ai pas lu le livre d'un adolescent, j'ai lu une œuvre littéraire et je l'ai pris comme tel. Mais en fait, quand on est lecteur, on profite d'un livre pour tout ce qu'il nous apporte. Et le film, du coup, c'est naturellement destiné à tous les publics.
Voilà, donc Une bouteille à la mer de Thierry Binistis, ça passe au Diagonal, ça vient de sortir.
Eh bien, merci beaucoup, Marine. On va maintenant passer, après les petits films confidentiels, on va passer au blockbuster.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Moins de 2 années après le premier opus, la dernière incarnation de Sherlock Holmes est sortie sur les écrans et c'était mercredi dernier. Alors avant ces 2 volets réalisés par Guy Ritchie, il y a eu de nombreuses adaptations du célèbre détective porté à l'écran et il semblerait même qu'avant Frankenstein et autres vampires, ça soit le personnage le plus adapté à l'écran. Et Martin avait consacré un dossier en mars 2010 dans cette même émission Cinérama aux adaptations les plus marquantes. Donc je vous renvoie au blog de Cinérama que Martin continue de décorer pour retrouver le podcast de l'émission, l'adresse est cinérama.over-blog.fr. Alors déjà, à la sortie du premier volet des aventures d'Holmes, et je me souviens que la première fois que je l'avais chroniqué, j'avais du mal à dire Holmes, et de Watson, donc je m'étais collé à la chronique. Et le coup d'essai de Guy Ritchie m'avait fait très bonne impression, rythme, action, truculence du personnage, c'était un vrai bon divertissement comme ne savent pas toujours en produire les studios. Pour cette deuxième histoire, emportée par le même duo, Robert Downey Jr. et Jude Law, la recette ne change pas, un décor de fin 19e qui nous plonge dans le vieux Londres des monuments, mais aussi ses bas-fonds, un vieux Paris avec le Sacré-Cœur en construction et un opéra Garnier sur son 31 et puis la campagne allemande. Alors l'équipe du film a semble-t-il retenu la leçon du premier Sherlock puisque les images numériques semblent moins artificielles et la tonalité de l'ensemble nous permet de nous laisser porter par cette histoire entre un Holmes qui carbure au café à la feuille de coca et le dangereux Moriarty, car s'il n'apparaissait pas dans le premier volet, le voici, le fameux docteur, au moins aussi intelligent qu'Holmes, mais plutôt porté à faire le mal, du genre à vouloir être riche et puissant et tant qu'à faire ne reculer devant rien pour arriver à ses fins.
Que voyez-vous ?
Tout. Voilà mon fléau.
Holmes, vous m'avez affreusement manqué.
Ah oui, j'ai à peine remarqué votre absence.
C'est l'enquête majeure de ma carrière, et j'y baigne jusqu'au cou.
Qu'avons-nous à affronter cette fois?
L'âme criminelle la plus redoutable d'Europe.
Le professeur James Moriarty.
Il conviendrait de l'arrêter afin de prévenir l'effondrement de la civilisation occidentale. Nulle obligation.
Qui êtes-vous, messieurs?
Des citoyens soucieux des autres.
Monsieur Holmes, j'ai le sentiment qu'un danger vous menace.
Êtes-vous sûr de vouloir jouer cette partie? Je crains fort que vous ne perdiez. Sapristi.
Mais qu'est-ce que...
J'ai eu le meilleur déguisement, j'en conviens. Vous connaissez ma méthode. Au travail, voulez-vous? Vos secondes sont comptées. Faites-moi confiance.
Non!
Vous venez de tuer ma femme!
J'ai tout soigneusement minuté!
Laissez-moi vous guider.
Faites mouche!
On peut estimer que j'ai fait mouche. Vous semblez...
radieux.
Hystérique.
C'est le cas.
Quasi...
euphorique.
Psychotique. J'aurais mieux fait de vous servir un sédatif.
Ah, il était important de laisser cette bande-annonce jusqu'à la fin. Pif, paf et boum. C'est à peu près ça pour les scènes d'action, mais ça serait bien réducteur, car le tout est bien orchestré, d'autant que Holmes, pour ce... Je vais pas y arriver. Pour se sortir des plus sales embrouilles, a le talent d'un 007 doublé de celui d'un MacGyver et un don de précognition, appelons-le comme ça, qui lui permet d'avoir toujours un coup d'avance. Sherlock, dans un temps qui n'est pas le nôtre, puisqu'il réfléchit bien plus vite que nous, peut anticiper une scène, une baston, hein, convenons-en, avant qu'elle ne se produise en temps réel. Aussi, on voit des éléments de la scène commentés par Sherlock, et quand tout est prêt, le fauve est lâché et les coups pleuvent. Ralenti hyper lent combiné à des décadrages hyper accélérés concourent à faire de ces scènes des moments jouissifs qu'aurait quand même renié Ingmar Bergman. Alors ces ralentis qui décomposent le mouvement sont réalisés grâce à la fameuse caméra fantôme utilisée aussi par Lars von Trier notamment dans l'ouverture d'Antéchrist, une caméra qui peut pour une bonne qualité d'image enregistrer 2500 images à la seconde au lieu des 24 pour le cinéma. Forcément, c'est pas du jeu. Évidemment, alors c'est un effet, c'est un peu clinquant, mais cela met aussi en avant les facultés particulières de Sherlock, jusqu'à ce qu'il rencontre Moriarty, qui semble-t-il a aussi quelques aisances sur le terrain de la prédiction. Alors c'est avant tout un divertissement, avant tout un film d'action, mais qui pratique aussi l'humour dans ses grandes largeurs, que ça soit les déguisements de Holmes en opération camouflage ou alors les conversations entre le super détective et son ami Watson, des dialogues qui, semble-t-il, sont beaucoup plus fidèles à l'esprit de Sir Conan Doyle qu'il ne l'était dans le premier volet. Quant à l'intrigue, elle vaut ce qu'elle vaut, il n'y a rien de bien nouveau, mais l'essentiel est ailleurs. Et on peut noter d'ailleurs que dans le premier volet, bien Holmes était quand même assez accablé, voire dépressif, et que là, ça y est, il a repris du poil de la bête. Et c'est peut-être pour ça aussi que eh bien, l'histoire est un peu survitaminée. Et en tout cas, il est clairement revendiqué hein, qu'il prend des feuilles de coca. Hein. Enfin, c'est quand même un type qui n'arrive pas à dormir, hein, Holmes.
Voilà. Et il y a dans celui-ci Noomi Rapace, l'actrice de Millennium version suédoise aussi. Qui joue sa copine, non?
Qui joue sa copine,
ou son
oui.
Son ennemi peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vu le film.
Non, pas son ennemi, parce qu'il n'a pas d'ennemi, enfin, il a plus ou moins une ennemie féminin, enfin, mais voilà, mais qui n'apparaît pas très très longtemps, si je puis me permettre...
De spoiler.
Ouais, un peu. Voilà, donc, pour moi, c'est un film qu'on peut aller voir les yeux fermés, et qu'on peut... Enfin, les yeux fermés,
oui.
l'expression débile... Donc, on peut aller voir en tout cas ce film, que ce soit en version originale sous-titrée au Gaumont Comédie ou en version française dans à peu près tous les autres cinémas dits commerciaux. Et voilà, bah, je le recommande. Et puis, c'est Guy Ritchie qui est aux commandes et qui, me semble-t-il, a fait encore mieux que la dernière fois. Alors, je ne sais pas s'ils vont s'arrêter, parce qu'il n'était pas forcément prévu qu'ils fassent... qu'il fasse ce deuxième volet suite au premier, mais le premier avait tellement marché. Que,
voilà, ça va peut-être devenir une franchise, quoi.
Ça va peut-être devenir une franchise.
Il y aura
franchise,
des reboots, mais... des préquels, des ouais. Sequels.
Ouais, mais c'est dommage qu'ils aient fait mourir du coup Moriarty. D'un...
Oh non!
Coupez cette émission tout de suite. C'est dommage que Moriarty voilà, soit dans le sale drap.
Bon, spéciale dédicace pratiquer... à la joie aujourd'hui.
On va plutôt pratiquer l'euphémisme. Bon, ben, je crois qu'on va changer un peu de sujet.
Cinérama sur Divergence FM.
Mon Dieu, quelle énergie aujourd'hui. On va tellement changer de sujet qu'on va parler du cinéma algérien. Et oui, c'est comme ça, on pratique le grand écart dans Cinérama. On va en parler avec Jacques Choukroun, qui est un docteur en histoire, je crois, et pas loin d'être un docteur en cinéma. En tout cas, il a enseigné le cinéma à l'université de Montpellier. Et puis, bien, c'est un fin connaisseur du cinéma algérien. Et puis, bien, débutent les rencontres du cinéma algérien, rencontres qui vont se dérouler bien, dans toute la région. Ça a commencé donc lundi avec une avant-première du film de Merzak Alouache. Et puis, ça se terminera au mois de mars. Et c'est lui qui va nous en parler.
Je m'appelle donc Jacques Choukroun. Moi, je suis vice-président de l'association Regard sur le cinéma algérien. Je connais le cinéma algérien depuis 45 ans, c'est-à-dire que j'étais chroniqueur moi-même de cinéma, dans un journal qui était le grand journal de la gauche algérienne, qui s'appelait Alger Republica. Et donc c'est comme ça que j'ai connu tous ces cinéastes, dont Merzak Alouache, qui était à l'époque étudiant en cinéma.
Alors effectivement, le festival est lancé donc ce soir, nous sommes lundi avec le film de Merzak Alouache, que par ailleurs vous distribuez avec votre société de distribution. Mais alors, on a l'impression quand même que le cinéma algérien n'est pas si énorme, enfin, en termes de production. Mmh. Alors, comment vous faites? Parce que ce n'est pas la première année qu'a lieu cette édition. Donc, comment vous faites pour trouver des films? Et quels sont les critères, finalement?
Ça dépend des années. Là, c'est une année spéciale, quand même. Je l'avais dit lors de la présentation. C'est que nous sommes l'année 2012. L'année 2012, ça représente le 50e anniversaire de la naissance, en tout cas pour moi, personnellement, avec beaucoup d'émotion, de la République algérienne démocratique et populaire. Donc, avec l'association, nous avions convenu que nous n'allions pas traiter de la guerre d'Algérie, des histoires constamment dont on parle dans les journaux, mais de dire, si vous voulez, 62, on peut le prendre de deux manières. Soit on le prend comme la fin de la guerre d'Algérie, soit on le prend comme le début d'une autre aventure, d'une autre histoire. Et c'est ce choix-là que l'association a fait. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez dans le titre du cinquième regard, ça s'appelle « 50 ans de création ». C'était donc pour nous un moment pour réfléchir, un moment de bilan, pas une vraie rétrospective, parce qu'il fallait faire beaucoup de moyens, mais un regard en arrière sur 50 ans de cinéma, avec justement le dernier film algérien, vraiment le tout dernier, il n'est même pas sorti encore hors des festivals. Donc moi j'étais très content que Merzak Alouache ait accepté de le présenter ce soir. Et d'autre part, à la fin, on va essayer, je pense en clôture, de présenter le célèbre chronique des années de braise de Lakhdar Amina, de Mohamed Lakhdar Amina, qui est la palme d'or, la grande palme d'or algérienne, et qui raconte l'histoire de l'indépendance. Alors l'idée de la programmation est simple. On a essayé, à partir du cinéma, c'est un cinéma, le cinéma algérien, qui a toujours eu un lien avec son histoire, avec l'histoire du pays. Donc, on a eu l'idée de traiter des 5 décennies, donc des 50 ans, avec des films. Donc, vous avez, en tournant les pages, vous voyez Chronique des années de braise et Omar Gatlato, qui est le premier film de Merzak Alouache, qui sont donc les années 60-70. Ensuite, on a pris les années... les belles années du cinéma algérien, avec une chance que le 2 février va venir M. Farouk Beloufa avec son film Nahla, qui est un très beau film, qui est un vrai mythe du cinéma algérien, mais qui était très difficile à avoir. Et la Cinémathèque française a accepté de prêter le film à l'auteur pour le présenter à Montpellier le jeudi 2 février. Alors, nous sommes très 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 fiers de ça.
Bienvenue à vous tous.
Nahla de Farouk Belloufa est un film culte du cinéma algérien et son réalisateur, dont l'œuvre a toujours été entravée ou réduite à des diffusions confidentielles, jouit d'une réputation considérable.
Ensuite, nous allons présenter aussi le film de Mohamed Chouir qui s'appelle Youssef. Youssef est un film qui raconte l'histoire d'une désillusion. Certains disent que c'est une métaphore de la mort de Boudiaf, enfin... donc un film sur les années 80-90. Puis ensuite, nous avons passé deux films qui sont symboliques des années 90-2000, dans la période dite que les Algériens appellent la décennie noire, La Montagne de Baïa, qui est un des premiers grands films dans l'univers amazigh, berbère, et puis El Manara. D'accord ? Et là, ensuite, on terminera par deux films très contemporains, La Place.
Comment va Monsieur Sarkozy ? How is Mr. Obama ?
And Mr. Bush ? Mais ça que je vous ai dit, c'est pas...
On nous m'a comité !
Non, 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 non.
Et Taxiphone.
Écoute, est-ce que tu peux passer Moussa ? Moi, je dois quitter cet endroit. Et je dois lire ce putain de camion à Tambouctou. Ce n'est pas peut-être et ce n'est pas Inch'Allah.
En fait, c'est un programme très multiforme qui a lieu à Montpellier, mais aussi...
À Narbonne, à Perpignan, à Béziers, au Vigan... à Clermont-l'Hérault, à Prades-le-Lez, à Frontignan, à Lunel, etc.
Non, mais pour nous, c'est très, très important. C'est très, très important. Si nous n'étions que Montpellierin, j'allais dire, enfin, en tout cas pour moi, ça aurait beaucoup moins d'intérêt. Ce sont dans des salles de cinéma que nous projetons. C'est pas dans des, je sais pas, c'est pas dans des locaux associatifs, etc. Donc, et c'est ça qui est très intéressant. C'est, pour nous, c'est de faire connaître un cinéma qui n'est pas toujours bien programmé en France, mais qui existe quand même. Alors, naturellement, il n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas un cinéma très productif. Hein. Il produit deux, trois longs métrages, en gros, trois longs métrages par an, certaines années, cinq ou six, mais voilà. Mais cette année, on a essayé de faire quand même quelque chose qui a une cohérence, avec quand même deux ou trois films nouveaux, que personne n'a vu, comme Normal, bon, ça, c'est la grande chance, mais aussi Taxiphone de Mohamed Soudani, et puis La Place, qui a été vue qu'en fait qu'à Montpellier.
Pendant le Cinémède, c'était il y a déjà deux ans. Hein.
Il était au Cinémède en 2010, mais on l'a passé ici l'année passée aussi, à Diagonale, mais il n'est passé qu'à Montpellier. Et donc je dis toujours ça, parce que les gens me disent « Oui, mais on l'a déjà passé », je dis « Non, mais c'est à Montpellier qu'il a été passé, vous voyez. Par contre, à Perpignan, ils vont le découvrir. »
Et ils vont découvrir d'ailleurs une comédie musicale, donc c'est vrai que voilà. C'est la première comédie musicale d'ailleurs algérienne, me semble-t-il, hein. C'est ce qu'annonçait le réalisateur au cinéma.
C'est la première comédie musicale au sens vraiment comédie musicale, c'est-à-dire pas un film chantant, c'est-à-dire qui chante, qui danse, et dont le scénario est appuyé là-dessus. Je crois qu'il a raison de dire que c'est la première comédie musicale dans ce sens-là. D'ailleurs, au moment de la sortie du film national, le 8 février, on espère bien sortir, je parle pour les radios, là, on vous l'enverra, la bande originale du film. Les techniciens travaillent à sortir un petit CD de promotion qu'on va envoyer justement aux radios libres, etc. Parce que quand même, beaucoup de gens n'ont pas fait attention au générique. Mais en fait, les musiciens qui ont fait le film La Place, c'est des stars.
Qu'on précise, La Place au Cinémède, il y a deux ans, a remporté un prix pour la musique.
Le prix de la musique, voilà. Du JAM. Ouais, il a eu le prix de la musique du JAM. Et d'ailleurs, je crois que ça va être sur toutes les affiches, etc. On va le prix de la musique. Parce que ça nous a amusé de communiquer. Ça me semble pertinent de communiquer sur le fait qu'une comédie musicale ait le prix de la musique.
Tu l'as dit. Donc, on remercie Jacques Chocroun pour avoir toutes les infos sur ce festival Regard sur le cinéma algérien. Eh bien, vous allez sur le site du film des Deux Rives, puisque c'est aussi la société de distribution de Jacques Chocroun.
Fut mon directeur de mémoire quand même. Il faut que je le dise à l'antenne parce que ça me brûle les lèvres. Donc,
Ah, ben voilà, toi, tu peux nous parler du personnage.
Dédicace à Chocroun.
Ben voilà,
Non, je garderai le silence sur ce point.
Ah bon ? Mais les cours étaient comment, par exemple, je ne sais pas.
Justement, je ne l'ai jamais eu en cours, en fait, et je l'ai vu 3 fois dans l'année pour mon mémoire, en me battant à chaque fois, pour réussir à le voir.
Ah d'accord, c'est ce genre de révélation que tu voulais faire, ou que tu voulais taire.
Non, je ne voulais pas les faire, tu m'y as forcé.
En tout cas, maintenant, d'après ce que j'ai compris, il est à la retraite et il peut se consacrer encore plus au cinéma algérien qu'il défend. Enfin voilà, nous, il avait même convaincu Martin de nous emmener une fois... lors d'une séance, voir un film kabyle, Simouhan l'insoumis, je m'en souviens bien du titre, et c'était un film assez pas facile, comme disait Jacques Choucroune. Voilà, bon, c'était un film pas facile, effectivement, c'était pas un film facile. Mais voilà, c'est le cinéma qui défend.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
On passe à l'agenda de cette semaine. Alors, ce soir à 18h, donc vous n'en tenez pas compte pour la rediffusion, c'est au Diagonale, c'est Zone d'ombre de Mika Giannotti. C'est une séance suivie de débat avec David Depasse, qui est juge d'instruction au TGI de Nîmes, qui est ancien secrétaire général adjoint du syndicat de la magistrature. Donc ça va discuter forcément droit. Jeudi 2 février à 20h au Diagonale, regard sur le cinéma algérien justement. Alors il en a été question, c'est Narla de Farouk Belloufa. Et Farouk Belloufa, le réalisateur, sera là pour parler de son film. Jeudi 2 février, c'est au Ciné-Club Jean Vigo, L'Ange Exterminateur de Luis Buñuel. Donc ça, c'est à 20h. Et puis, on passe directement au dimanche 5 février, cette fois-ci à l'Utopia, c'est à 10h30. C'est le cinéma Utopia et le réseau Sortir du Nucléaire qui proposent, au cours du premier semestre 2012, plusieurs rendez-vous afin de vous permettre de prendre conscience des dangers liés à la technologie nucléaire. Alors, on se doute bien dans quel sens ils vont aller. Et chaque projection sera précédée d'un petit déjeuner où le thé et café sont offerts par le cinéma. Et puis forcément, il y aura un débat. Donc là, il débute ce dimanche 5 février avec Scandale et Pour quelques mégawatts de plus de Ghislain Léon. Le lundi 6 février à 14h au Diagonale, c'est Johnny Guitar de Nicolas Rey. Ça, c'est dans le cadre de l'Université du Tiers-Temps. C'est en plein après-midi. Et puis le soir, c'est dans le cadre de la rétrospective de FJ Osang avec le festival Montpellier à 100%. Il y aura Dharma Guns. Ça dit quelque chose, Manu ?
Oui, FJ Osang, oui, j'ai acheté le coffret.
Ah, ben voilà.
3 films qui sont sortis, Le Trésor des îles chiennes, Docteur Chance et puis celui-là, en fait.
Et Dharma Guns, je crois que c'est, il me semble que c'était son dernier, non ?
C'est son dernier.
Ah, oui. C'est ça, oui. Et donc, ce sera une séance suivie du débat avec Osang, qui est réalisateur, qui est aussi un musicien, qui est plutôt rock'n'roll. Hein.
Ouais, il est issu du punk, enfin, il fait
voilà.
Un truc un peu...
Donc il est un peu en marge du cinéma. Donc c'est un partenariat avec Divergence FM d'ailleurs, le festival Montpellier à 100%. On essaiera de tendre nos micros lors de cette rencontre avec les spectateurs et je pense que vous en aurez un petit aperçu mercredi prochain, ce qui vous donnera peut-être envie d'aller voir ces films le reste de la semaine. Et puis toujours à l'Utopia, on peut dire qu'il y a Dangerous Method, Cleveland contre Wall Street et pour Le Havre, pardon, Le Tableau, Les Acacias, Les Enchaînés, Les Nouveaux Chiens de Garde, Louise Wimmer, dont on n'a pas parlé d'ailleurs.
Exact. Qui est plutôt mais parce qu'il n'est pas passé au Diagonale d'ailleurs, c'est il est passé à l'Utopia et on l'a laissé passer.
Oui, et puis on n'avait pas recommencé peut-être Cinérama. Il y a Shem, par contre, qui continue sa petite carrière bien tranquille. Tech Shelter, Tatsumi, Tous au Larzac, documentaire déjà sorti depuis un petit moment et qui sera d'ailleurs au César. Il est en compétition pour le meilleur film documentaire. Et puis le dernier film qui est encore projeté à l'Utopia, c'est Turn Me On. Ainsi va s'achever Cinérama, je pense. Vous avez quelque chose à ajouter ?
Et bien tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes, qui est cette semaine consacrée à Blade Runner.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission et c'est tant mieux pour moi parce que je suis pas très frais aujourd'hui. Donc je vous laisse conclure.
À la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Bruno.
Merci.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines.
Il n'y a pas de gagneur, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.